Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous présenter Maître Christian Dargham. Christian est avocat au barreau de Paris depuis 1998. Il est aujourd'hui associé du cabinet Norton Rose Fulbright et il fait partie des premiers à avoir développé en France une expertise en éthique et compliance. Ce sont deux confrères que Christian a connus chez Clifford Chance qui m'ont parlé de lui. Loïc Padenou, d'une part, que j'ai interviewé en épisode 12 de Fleurs d'avocat, puis Thomas Lambard. Sans avoir accordé leur violon, ils m'ont tous deux parlé d'un avocat brillant, plein de réussite et très sympathique. Il ne m'en fallait pas moins pour avoir envie de le recevoir sur le podcast, et je remercie Thomas d'avoir fait le lien. Quand je me suis pointée chez Norton Rose par contre, je crois bien que cette interview était sortie de l'esprit de Christian, ce à quoi s'est rajouté le fait qu'il traversait une journée compliquée. J'ai donc bien cru que j'allais rentrer bredouille pour cette fois, mais finalement nous avons enregistré l'interview. Christian avait été honnête sur le fait qu'il était plutôt de mauvaise humeur ce jour-là et qu'il en était désolé. Je ne sais pas si j'ai voulu compenser en l'épargnant de trop de questions et en étant particulièrement douce, ou si j'ai été distraite par la vue sur la tour Eiffel, ou encore si je me suis laissée endormir par le soleil qui chauffait à travers la baie vitrée, ce qui est tout à fait possible. Mais le fait est que je me trouve un peu moins vive que d'habitude. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et apprécierez cet échange qui comporte quand même son lot d'anecdotes et d'enseignements. Avant de lancer l'interview, je suis désolée de vous demander encore et toujours de penser à laisser un avis et des étoiles sur iTunes ou votre application podcast préférée. C'est vraiment important pour m'aider à le faire connaître. Merci par exemple à Claire RDF qui indique se régaler à écouter ces entretiens. Tout le plaisir, Claire, est pour moi. Enfin, comme je vous disais la semaine dernière, j'ai créé une formation pour aider les avocats et notamment les avocats collaborateurs à mieux vivre l'exercice de leur métier. La prochaine session aura lieu en juin et il reste des places, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site internet de Fleurs d'Avocat, www.fleursdavocat.fr, pour en savoir plus. Et aussi à utiliser le code promo podcast, PODCAST, tout en majuscule, lors de votre inscription. Je ne vous embête pas plus et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Christian Dargham.
Bonjour.
Merci d'être mon invité sur Fleurs d'Avocat.
Avec plaisir.
Alors Christian, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat.
Je ne voulais pas devenir avocat à la base.
Que vouliez-vous devenir ?
Je voulais être diplomate. Donc j'étais presque programmé depuis mes 12-13 ans parce que j'adorais l'histoire, la politique internationale. Je suis né et j'ai grandi au Liban. Et j'ai un oncle qui était en France qui m'avait dit il faut passer le concours du secrétaire d'Orient, donc au Quai d'Orsay. Et j'étais totalement programmé pour ça. Et il se trouve que j'ai vécu dans un pays qui était en guerre. Et puis en 1990, on a dû venir un peu en catastrophe en France. Et donc j'avais commencé une première année de sciences politiques au Liban qui a été interrompue. Et je me suis inscrit un peu par hasard en fac de droit en attendant d'essayer de passer le concours de Sciences Po après ce qu'on appelait à l'époque une licence.
Je vous interromps tout de suite, mais comment est-ce que vous avez vécu cette arrivée en France un peu en catastrophe au cours de votre première année d'études supérieures ?
Alors, c'est après coup, rétrospectivement, je pense que c'était une chance, parce que ça vous met dans une situation totalement nouvelle, où vous devez du jour au lendemain trouver du travail, parce qu'en fait, vous arrivez un peu en catastrophe, et sans vouloir parler de choses larmoyantes, etc., mais vous devez, dans certaines conditions, les banques sont fermées, vous n'avez pas de revenus, donc vous devez vous débrouiller pour en arrivant dans un nouveau pays, alors dont je parlais la langue évidemment, donc ce qui était une chance. Du coup, essayer de vous intégrer, de trouver du travail. Et donc finalement, ce sont des choses qui m'ont beaucoup servi pour la suite de ma carrière. Donc je suis arrivé, je me suis inscrit en auditeur libre au mois de mars 1990 à Paris 2. Donc j'y allais pour écouter les cours, je n'allais pas en TD. Et puis l'année suivante, je me suis retrouvé à la faculté de Sceaux, à prendre donc des cours de droit, toujours en ayant en tête de devenir diplomate. Donc je négligeais un peu le droit civil, le droit privé. Et puis à la fin de la deuxième année de droit, j'ai eu une proposition de travailler dans un cabinet d'avocat à la Cour de cassation, en tant que ce que mon ancien patron appelait saute-ruisseau, c'est-à-dire que je devais aller faire les démarches administratives à la Cour de cassation et au Conseil d'État. C'était un job de 3 heures par jour. C'était en juillet 92.
Je peux vous demander comment est-ce que vous avez eu cette opportunité ?
Alors c'est quelqu'un qui collaborait avec ce cabinet qui m'a dit on cherche quelqu'un. Alors moi j'étais animateur dans le centre de loisirs d'ici le Moulineau, à côté de la fac, donc je gagnais plutôt bien ma vie pour un jeune. Je m'amusais un peu puisque j'allais accompagner des enfants dans des colonies de vacances, dans des... Il n'y avait pas encore Walt Disney à l'époque, mais bon, j'aimais bien. Et on vient me chercher pour me dire ce job. Et je me disais, mais c'est peut-être un peu tôt d'aller faire des choses sérieuses. Je suis encore étudiant, je veux profiter de la vie. Ça ne faisait pas longtemps que j'étais en France, je voulais un peu découvrir cette nouvelle vie. Et finalement, la personne m'a dit, non, non, mais ça sera bien pour toi. Donc j'ai été pour ces 3 jours par semaine, en juillet 92, comme je le disais. Et puis en septembre 92, il y a une personne qui est partie de ce cabinet. Et mon patron de l'époque, qui m'appelait par mon nom, il me dit, qui prononçait mal d'ailleurs, qui me dit, Dargan, venez dans mon bureau. Donc je vais dans le bureau de mon patron. Il me dit, voilà, il y a un poste à plein temps qui s'est libéré et je veux que vous le preniez. J'en parle autour de moi. Mes parents me disent, mais jamais de la vie, tu es encore à la fac, les études, c'est la priorité. Et puis, il m'a proposé 10 000 francs à l'époque. J'étais jeune étudiant, avec pratiquement aucune expérience de la vie.
Et
En tout
c'était
cas,
beaucoup parce que moi, ça ne
pas
veut rien
d'études.
dire 10 000 francs
Oui,
dans mon esprit.
merci de me rappeler mon âge. Donc, effectivement, c'était beaucoup d'argent pour l'époque et surtout pour quelqu'un qui n'était absolument pas qualifié. Et donc, j'ai fini par accepter, contre l'avis de tout le monde, ce travail-là. Et j'ai été formé chez eux. Je suis resté 7 ans chez eux. Ils m'ont vraiment tout appris. Ça m'a permis vraiment de bien m'intégrer en France déjà. Et puis j'ai appris parce qu'en fait, je travaillais à plein temps. Alors à l'époque, je me disais, tous mes amis vont à la fac, ils peuvent partir en vacances quand ils veulent. Alors l'avantage, c'est que je gagnais bien ma vie. Mais peu à peu, ça m'a apporté une certaine formation, une certaine précision dans la façon de travailler, une méthodologie. Et puis
Puis en
ça me.
plus, vous disiez que vous aviez un peu négligé les cours de droit civil, tout ça. Là, en étant auprès d'un avocat à la cour de cassation, enfin, pour le coup, vous étiez dans le droit dur et la technicité juridique,
Exactement, exactement.
le
Donc
meilleur lieu de formation.
tout à fait. Vous avez parfaitement raison de le souligner. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre un métier. Tout en ayant les 2 premières années, je me disais bon, je vais continuer, je vais essayer de bien faire mes études pour toujours aller à Sciences Po. J'avais toujours ça en tête. Et finalement, au fur et à mesure, on apprend un métier. Et j'ai passé mon DEA à l'époque. C'est comme pour le franc, ça s'appelait DEA à l'époque aussi. Et donc, finalement, je me suis pris au jeu et j'ai appris un métier. Et je savais faire ça et j'ai commencé à avoir du plaisir à le faire. Et c'est comme ça que, peu à peu, je suis rentré dans le monde de l'avocature.
Et vous avez mis du temps à prendre du plaisir?
Écoutez, quand vous savez faire les choses et que vous commencez à avoir un peu de résultats et qu'il y a une reconnaissance, il y avait cette reconnaissance au cabinet, j'apprenais des choses, je trouvais il y avait des choses intéressantes que j'apprenais. Et là, vous prenez du plaisir, évidemment, à voir que ce que vous faites était fait relativement bien. Je ne dis pas que je faisais les choses très bien, mais il y avait du résultat derrière. Et puis je me disais, mais pourquoi pas, là je reste, j'étais bien payé, je faisais mes études. Et donc c'est naturellement que je me suis retrouvé comme ça. On va peut-être en parler tout à l'heure. Je fais beaucoup de compliance et c'est un peu par hasard aussi que j'étais dans la compliance. Donc ce sont les hasards de la vie qui sont. On a parfois, alors on en parle toujours comme ça en parlant des hasards de la vie, mais on a parfois tendance à négliger ça puisqu'on se dit, on a l'impression que tout est. Surtout quand on est jeune, que tout est bien tracé, on va faire ça, on va faire ci. Donc on a nos projets, on y croit, et c'est bien d'y croire évidemment. Et parfois la vie vous emmène vers d'autres aventures qui peuvent aussi
Ouais.
être très bonnes.
Et vous, vous êtes laissé porter par ça, en tout cas dans ce cabinet, dans cette première
Oui, tout à
expérience.
fait. Je me suis laissé porter par ça. Alors peut-être un peu par paresse aussi, je ne sais pas, en me disant voilà, je suis bien, et puis on verra. Et puis on est bien et on se laisse emporter. Et évidemment, je ne regrette pas du tout.
Et donc, 7 ans dans ce cabinet, donc ça a couvert plus longtemps que vos études, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai commencé en fin de deuxième année et puis j'ai fait, comme je disais tout à l'heure, mon DEA. Et
En
puis,
droit pénal,
non,
en
en droit civil,
droit civil.
tout à fait. En droit des contrats, pour être très précis, c'était donc à Sceaux. Et puis, j'ai continué aussi quelques années par la suite. J'ai passé mon CAPA en parallèle. Et là, j'ai commencé à avoir mes premiers dossiers perso, tout en collaborant chez l'avocat au conseil. Et puis, au bout d'un moment, au bout de 7 ans, alors
Donc
quand.
vous étiez, je suis désolée, vous êtes le premier invité que sur Fleur d'Avocat qui a été plutôt auprès dans une première expérience auprès d'un avocat auprès de la Cour de cassation et du Conseil. Du coup, vous étiez avocat normal, vous travaillez pour ce cabinet qui fait des dossiers auprès de la Cour de cassation et du Conseil d'État, et donc vous aviez des dossiers personnels pour le coup pour des personnes, en première instance, deuxième instance,
Tout à fait. Alors,
classiques.
juste pour rappeler pour ceux qui ne connaissent pas les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'État, qu'on appelle l'avocat au Conseil, ce sont des avocats qui ont un monopole devant la Cour de cassation et devant le Conseil d'État. Et donc, généralement, sauf certaines exceptions, quand vous voulez aller devant ces deux juridictions suprêmes, vous êtes obligé de passer par les avocats au conseil, qui, eux, ne peuvent pas représenter les clients ou plaider devant les juridictions inférieures, ce qu'on appelle les juridictions du fond. Et donc, il y avait les avocats au conseil eux-mêmes, donc il y avait à l'époque 60 bureaux, 60 charges, et donc il y avait les avocats au conseil eux-mêmes, et puis il y avait ce qu'on appelait les collaborateurs d'avocats au conseil, donc qui pouvaient être des gens comme moi, ça peut être des doctorants, il y a également des consultants comme des profs de droit qui venaient faire des mémoires en cassation. Et donc voilà, à côté de ça, j'ai passé mon diplôme d'avocat à la cour, et je pouvais avoir mon activité d'avocat à la cour à côté du travail que je faisais pour l'avocat au conseil. Évidemment, il fallait que je puisse faire mon travail pour mon employeur, parce que j'étais salarié à l'époque, jusqu'à ce que... Non, pardon, je raconte des bêtises. Une fois que je suis passé avocat, j'étais devenu en libéral, donc j'avais mes honoraires de ce cabinet-là, et puis à côté de ça, j'avais mes affaires personnelles, donc que parfois mon avocat au conseil, mon patron de l'époque, me donnait, parce qu'en fait, il avait des amis ou il avait des clients. Et donc, vu que chez les avocats au conseil, tout se passe, l'essentiel se passe par écrit, ce sont des mémoires de cassation qui suivent une certaine méthodologie, on voit très peu le client, on ne plaide pas, en tout cas pas moi, c'est les avocats au conseil qui de temps en temps pour des affaires de principe plaidaient, mais il y a très peu de plaidoirie, il n'y a pas de négociation, et donc j'avais envie quand même, quand j'ai commencé ma carrière, d'aller plaider, d'aller voir du client comme on dit, un peu plus qu'avec mes dossiers perso. Et à cette époque, j'avais été approché j'avais envoyé mes candidatures, pardon, et à l'époque, il y avait un des Big Five, parce que maintenant, ils ne sont plus que forts, qui s'appelait Arthur Andersen. Et donc, il y avait une partie du réseau était un cabinet d'avocats. Et donc, j'ai été chez eux à cette époque, donc en 1998, ou 99, pardon.
Donc, vous avez complètement quitté le cabinet
J'ai complètement.
Ça a été une décision difficile ou... Vous vous êtes dit que c'était la fin d'une époque,
non,
vous aviez envie d'une autre manière d'exercer.
Non, j'étais très content chez l'avocat au conseil. J'avais, comme je vous le disais, j'ai tout appris chez eux ou j'ai beaucoup appris chez eux. Donc c'était presque familial. Donc c'est toujours très difficile de partir de ce genre de structure. Mais voilà, j'avais envie de, tout en ayant une certaine appréhension, parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce mastodonte partout dans le monde, est-ce que je vais être à la hauteur? Toutes les questions qu'on peut se poser. Et assez rapidement, en fait, je me suis intégré parce que l'ambiance était extraordinaire. C'était la fin des années 90, c'était une période totalement folle. Il y avait plein de jeunes, une croissance à deux chiffres, des augmentations de salaire à deux chiffres. Donc c'était une période totalement exaltante où j'ai beaucoup appris et je me suis vraiment marré, comme on dit. Et d'ailleurs, j'ai gardé beaucoup de contacts. Alors je ne suis resté qu'un an et demi, soit des amis très proches, soit des personnes avec qui je suis en contact qui sont maintenant mes clients. Et il y a deux ou trois ans, nous avons organisé ici au cabinet avec deux autres associés de mon cabinet actuel, qui étaient des anciens d'Arthur. Et on s'est dit, on va organiser un petit un cocktail ici, juste entre nous, avec les copains de l'époque, dont certains qu'on avait perdu de vue. Et on a lancé une quarantaine d'invitations. Alors j'étais en retard, j'étais à l'origine du projet et je m'étais engagé à le faire et j'ai tardé un peu à le faire. Et on a dû lancer les invitations 10 ou 12 jours avant la date. Une quarantaine d'invitations. Je pense qu'on a eu, dans les 24 heures, 32 oui, et des 8 qui ont dit non, ne pouvaient vraiment pas venir parce qu'ils étaient en déplacement. Donc c'était juste, on s'est retrouvés ici, donc entre des gens qui avaient entre 45 et 55 ans. Et c'était juste, c'était magique parce qu'en fait, vous aviez des gens qui étaient à des postes, parfois des postes importants que tout le monde regarde avec déférence, etc. Et on était une bande de gamins, en fait, ou de post-adolescents à se retrouver là. Et ce sont des gens avec qui on a... Voilà. Il y avait quelque chose que je ne saurais pas décrire, qui était juste magique, et qu'on retrouve encore quand on revoit les fameuses personnes d'Arthur. Alors c'est peut-être dû au fait que le cabinet a explosé du jour au lendemain à la suite de l'affaire Enron, et que chacun s'est retrouvé quelque part. C'est peut-être ça aussi qui fait cette magie dont je parlais.
Mais donc la fin de cette aventure, ça a été cette affaire-là ?
Oui, alors moi j'étais parti un peu avant. J'ai eu la chance de partir un peu avant. Là encore, à la différence de l'avocat au conseil, là je ne cherchais pas à partir, j'étais bien. Et j'ai une ancienne collègue qui était avec moi chez Arthur Andersen qui était partie chez Clifford Chance et qui me harcelait pour que je rejoigne Clifford en me disant « On a besoin d'un senior, viens, c'est très bien ici. » Donc j'ai fini, j'étais de mauvaise humeur. Pendant les vacances de Noël, je pense, ça n'allait pas très bien. Et elle vient me dire, ça te coûte rien, viens prendre un petit déjeuner avec nous, ça te coûte rien, ça ne t'engage en rien, ça ne nous engage en rien. Donc j'ai été et je me suis un peu laissé...
Pourquoi vous étiez de mauvaise humeur ?
Je ne me souviens plus parce que j'étais de mauvaise humeur, je ne me souviens plus. parce qu'en fait, j'avais passé plusieurs nuits au cabinet et quelqu'un m'avait fait une remarque. C'était vraiment...
Non, mais ça tient parfois à peu de choses.
Oui,
hein,
exactement. Ça tient parfois à peu de choses. Et d'autant que c'est quelque chose, la preuve, je l'ai complètement oublié, c'était pas quelque chose de très grave. Mais j'étais pas très content de ce qu'on m'avait dit. Et je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce que ça me coûte? Je vais prendre ce petit déjeuner. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Clifford. Et d'ailleurs, les premiers temps, je me disais, mais ils ont l'air tous coincés ici. Chez Arthur, c'était mieux. Enfin, comme on peut se dire parfois quand on commence un nouveau job.
Surtout quand on a eu plein de copains dans sa précédente expérience.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et là, j'ai passé 12 ans chez Clifford. Là encore, magnifique. C'est vraiment c'est presque ma deuxième maison. C'était presque ma deuxième maison.
Qu'est-ce que vous avez fait chez Clifford?
Alors, j'ai continué à faire du contentieux et de l'arbitrage.
Donc ça, c'est ce que vous aviez fait chez Arthur Andersen,
tout
déjà?
À fait. Du contentieux de l'arbitrage. Je suis passé chez Clifford où j'ai continué à faire du contentieux de l'arbitrage. Et puis, alors, je ne me souviens plus exactement, ça devait être en 2007, je pense. Je sortais d'un très gros dossier et le cabinet faisait un pitch sur de la compliance pour un grand groupe français qui voulait mettre en place une politique de compliance dans des dizaines de pays, là où il opérait. Et on m'a dit, Christian, toi, tu sors de ce... Tu as du temps. Et donc, tu vas coordonner ce pitch sur la compliance. Compliance, qu'est-ce que c'est? Je ne savais absolument pas ce que c'était. Je n'avais aucune idée. Et du coup, j'ai mes collègues américains et un peu anglais qui m'ont briefé pendant 2-3 jours. On a remporté le pitch. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, mais totalement par hasard, je vous le disais tout à l'heure, à faire de la compliance. Et donc, c'était
quelque chose... Je pense qu'il y avait déjà Thomas Baudesson.
Tout à fait.
Peut-être qu'ils ne travaillaient pas encore sur la compliance.
Non, personne ne travaillait sur la compliance et je vous dis, personne ne savait ce que c'était.
Ouais.
Moi le premier. Et donc je me suis retrouvé à faire ce pitch-là et on l'a gagné. Et donc j'ai coordonné l'équipe, donc il y avait des Américains, des Anglais, des Allemands, donc plusieurs juridictions qui avaient un peu plus d'avance.
Et quelle a été votre sensation à gagner ce pitch sur une matière sur laquelle vous ne connaissiez absolument rien?
Franchement. Bien entendu, comme tout le monde, c'est toujours très excitant de rapporter à un client, de gagner des pitchs. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment une partie que j'aime beaucoup dans la profession, même si avant, comme je vous le disais, je n'avais pas du tout envie d'être avocat, j'étais plus dans la diplomatie, donc plus dans l'administration, et je me disais que je ne suis pas fait pour le côté commercial, le côté business developer. Et là, alors, ce pitch-là, franchement, ça nous a fait plaisir, mais j'étais pas aux anges en me disant, voilà, c'est un pitch... C'est cette nouvelle matière, on verra bien. Donc j'étais satisfait parce que voilà, il y avait du travail qui avait été fait, mais c'est pas comme certains pitchs où vous dites. C'est
non,
super.
Mais ça pourrait révéler un sentiment. Moi, ça aurait pu créer de l'imposture, par exemple. Enfin, ça peut faire plein de choses, mais c'est une question ouverte, hein, vraiment.
Alors c'était pas vraiment de l'imposture parce qu'on l'avait préparé et ce qu'on m'avait donné comme élément, c'est des éléments vraiment concrets, bien précis. Donc on l'a gagné. Alors certes, il y avait très peu de gens pratiquement personne qui connaissait la matière en France. Donc le fait que j'ai été briefé par les autres m'a beaucoup apporté, mais sur le moment, j'étais content, mais sans plus. Et en fait, rétrospectivement, ça a complètement changé ma carrière, sans que je l'aie voulu et sans que je n'aie eu le nez creux, parce que plein de gens disent, oui, tu as commencé avant, bravo, stratégiquement, tu as été un visionnaire. J'étais visionnaire de rien du tout.
Une opportunité.
C'était une opportunité, un hasard total. Et parfois, vous influencez les choses. Et franchement, à l'époque, je ne vais pas raconter des histoires, je n'ai rien influencé du tout. C'était juste, on a travaillé jour et demi sur ce dossier-là pendant plusieurs mois. C'était vraiment un dossier très difficile, mais où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et certaines personnes me disaient, continue dans cette voie-là, parce qu'en fait, ça, c'est la voie de l'avenir, notamment les Anglo-Saxons qui me disaient ça, et mon collègue allemand à l'époque. Et c'est vrai que peu de gens à Paris, y compris moi-même, croyaient à cette matière-là. Tout le monde se disait, c'est un effet de mode, bon, c'est bien gentil, bien sûr, tu vas apprendre à tout le monde à faire du business sans payer des pots de vin, tu n'es pas dans le monde des bisounours. Et c'était ça. Et jusqu'à une période même très récente, jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, la réaction, c'était y compris de très gros clients et d'associés de cabinets internationaux, c'était ça. C'était presque de la condescendance. Et on brillait au nez en disant oui, oui, bien sûr, c'est ça. Et en fait, ces mêmes personnes, j'ai un client en tête que je ne nommerai évidemment pas, pour qui je travaille en compliance beaucoup en ce moment, et qui me disait... pardonnez-moi le terme, de nous bullshiter avec tes histoires.
Et donc, les gens vous disaient, c'est du bullshit tout ça, c'est un effet de mode, dans 2 ans, ça retombe comme un soufflé. Mais vous vous êtes accroché quand même. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous y avez cru, que vous avez eu envie de vous pencher plus là-dessus?
Alors, je voyais bien, parce qu'avec ce que les Américains me disaient et ce que les Anglais me disaient, je voyais bien quand même que c'est quelque chose qui allait arriver en France, et ça arrivait en réalité, puisqu'en fait, à l'époque, quelques sociétés françaises avaient été poursuivies par les Américains, ont dû payer des amendes, ont dû transiger, donc on voyait bien que ça arrivait. Mais sauf qu'en France, les gens ne voulaient pas voir ça, je pense, en disant, alors, ils ne disaient même pas ça va retomber. Pour eux, ça n'allait même pas démarrer, c'est un effet de mode qui venait de l'étranger, de l'extérieur, et qui n'allait même pas décoller, c'est même pas ça va retomber
Il n'y
après.
aurait pas de pratique française en tout cas.
Oui, et que c'est quelque chose ça ne faisait pas sens de perdre son temps avec ça.
Donc vous, c'était vraiment le fait de voir que aux États-Unis, en Angleterre, il y avait une pratique qui était forte. C'était une vraie préoccupation des clients et donc notamment des clients de Clifford Chance parce que c'est un cabinet anglais. Et donc c'est ça où vous vous êtes dit non, quand même, ça vaut le coup de persister là-dedans.
Alors, il y avait un peu ça. Alors, à côté de ça, je continue à faire le contentieux et l'arbitrage. Donc, j'étais occupé par ailleurs. Et puis, il y a peut-être un élément, maintenant que vous posez la question, qui me revient, c'est qu'en fait, dans cette matière-là, comme dans certaines autres matières aussi, c'est une matière où la diversité culturelle est très importante. Il faut être très ouvert d'esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, la politique de compliance ou d'anticorruption est rédigée en France, aux États-Unis, donc au siège, généralement par des juristes, et elle est appliquée en Chine, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, sur le terrain, par des gens qui n'ont pas la même culture, des gens qui n'ont pas la même formation. Et donc, pour pouvoir convaincre les gens d'appliquer ces politiques-là, il faut essayer de comprendre dans quel environnement ils vivent, quel est leur quotidien, à quoi ils font face, quelles sont les sollicitations, les difficultés auxquelles ils font face. Donc, si vous ne prenez pas ça en compte, vous n'y arrivez pas.
Donc c'est à ce moment-là que vous avez fait de la diplomatie.
Alors, vous avez parfaitement raison, c'est à ce moment-là que j'ai fait de la diplomatie. Et ce qui m'a attiré, c'est que les gens avec qui je travaillais, et aujourd'hui encore chez Norton, cette équipe-là, parce qu'en fait, c'est des équipes globales en général. Là, chez Norton, on a une super équipe globale avec qui on travaille tous les jours. Et pratiquement tous, alors pas 100% des gens, parce que vous avez partout des gens qui sont moins sympas, etc. Mais la très grande majorité des personnes sont des personnes très ouvertes, des personnes qui ont voyagé, des personnes qui sont ouvertes à d'autres cultures. Et je pense que c'est ça qui m'a plu. Et donc, du coup, vous avez envie de le faire. C'est pas je me suis accroché en me disant ça va marcher un jour. C'est juste naturel. Parce que
Ça vous a retenu, ouais.
ça m'a retenu parce que les gens avec qui je travaillais quotidiennement, c'était des gens qui étaient ouverts culturellement, des gens qui humainement étaient, alors évidemment techniquement étaient irréprochables et qui humainement apportaient quelque chose. Donc c'était un plaisir qu'on se retrouve. Et du coup, j'ai commencé à organiser des événements pour aller voir des clients avec eux, inversement. Donc on avait beaucoup de plaisir à se voir. Et du coup, c'est comme ça que naturellement, et là encore sans que je pousse pour quelque chose, naturellement, on a commencé à faire des choses ensemble et à aller voir des clients ensemble. Et c'est comme ça qu'on a commencé un peu cette sorte d'aventure, en fait.
Et donc cette aventure a quand même duré, en tout cas cette aventure-là se poursuit toujours, mais dans son contexte Clifford Chance, ça a été 12 ans.
12 ans, oui.
Et qu'est-ce qui fait que vous êtes parti?
Ce qui fait que je suis parti, c'est qu'en fait, Norton m'a proposé de prendre. Parce que moi je voulais toujours continuer à faire du contentieux, ce que je fais toujours encore. Donc, je ne voulais pas choisir entre la compliance et le contentieux. Et là, j'avais une opportunité de monter une pratique contentieux et compliance ici, avec un vrai soutien sur la compliance. Parce qu'en fait, traditionnellement, Norton avait une petite avance dans la matière. Et donc, c'était vraiment une sorte de poste taillé sur mesure. Alors évidemment, je suis parti de chez Clifford. C'était, comme je vous disais, c'était ma seconde maison et je garde d'excellents contacts et plein d'amis, que ce soit ceux qui sont restés ou ceux qui sont partis depuis. Là encore, on continue à se voir régulièrement. J'ai des amis très proches de cette aventure-là. Et voilà, donc je suis
C'était ce
parti.
costume sur mesure, quoi,
Ça,
qui vous a séduit, ouais.
exactement, ça a été costume sur mesure et je n'ai évidemment aucun regret puisque j'ai retrouvé ce que j'avais chez Clifford, ce côté humain, ce côté affable, je l'ai trouvé ici avec, là pour le coup, un focus avec beaucoup de soutien dès le début. Et voilà, l'aventure, je peux toucher du bois ou ça va faire bouger le micro.
Non, non,
Voilà,
allez-y.
se passe très bien. Et puis dans cette matière-là, je pense qu'on est un des cabinets vraiment reconnus en cette matière-là. Et on continue, même si parfois, comme partout, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de travail quand même. Ça, on ne peut pas faire autrement de toute façon. Mais généralement, c'est agréable parce qu'en fait, là encore, on travaille avec des gens qui ont cette ouverture d'esprit, cette ouverture culturelle. On voyage beaucoup. C'est parfois des sujets très sensibles, mais c'est toujours agréable d'essayer de prendre en considération ce côté comment vivent les gens. Parce que en matière d'anticorruption, par exemple, il y a toujours cette question qui obsède tout le monde, c'est la question des cadeaux et des hospitalités. Donc, dans certaines cultures, la culture du cadeau est là. Donc vous ne pouvez pas juste venir dire aux gens, bah, vous allez arrêter de faire ça. Ça ne fait pas de sens. Il faut leur dire pourquoi on va arrêter de faire ça, comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à faire son business. Parce qu'on ne va pas arrêter de faire du business, parce que c'est très facile de dire, bah, si vous êtes dans tel pays, en Afrique par exemple, subsaharienne, bah, y a beaucoup de corruption. Quand vous faites de l'extraction de ressources naturelles, c'est pas en Suède que ça se passe. Enfin, ça peut se passer un peu en Norvège, mais sinon, en général, ça se passe dans des pays qui sont des pays à risque en matière de corruption. Il faut continuer à faire du business, mais essayer de dire aux gens, avec leurs défis quotidiens, comment continuer à le faire. Je donne toujours cet exemple quand je fais des présentations. J'avais été envoyé à l'époque où j'étais chez Clifford par mes collègues américains faire une présentation sur la corruption, sur le FCPA, qui est la loi anticorruption américaine, dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Donc j'étais tout content d'y aller, un pays que je ne connaissais pas. Bon, je regarde la veille de mon départ, je regarde le site du ministère des Affaires étrangères, je lis ce qu'il y avait dessus, je me suis dit, bon, je comprends mieux pourquoi on m'a envoyé faire moi la présentation, alors que bon, je ne suis pas avocat américain. Je l'ai avec une petite quand même... en n'ayant pas peur, mais voilà, avec certaines précautions, j'arrive, j'atterris, c'était le soir. Et là, le douanier, avant de sortir, me dit, texto, il faut payer pour sortir. Aujourd'hui, il me dit, tu dois payer pour sortir, carrément, vraiment très directement. Donc j'étais là, moi,
avocat en compliance.
Avocat en compliance, avocat d'affaires internationales qui vient donner des leçons au monde entier en disant, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et j'étais là, j'étais assez ennuyé parce qu'en fait, je pensais à mon PowerPoint, la slide, je ne sais plus, disons la slide 6 en disant, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce que je fais? Je suis moi-même confronté à cette situation. Et c'était une bonne leçon d'humilité. Parce qu'en fait, on veut toujours donner des leçons en disant, il ne faut pas faire ci, il faut faire ça. Mais quand vous êtes sur le terrain, vous êtes confronté à ça, vous faites comment?
Comment avez-vous fait justement?
Alors, j'ai essayé de négocier avec ce monsieur en disant, voilà, moi je ne peux pas, attendez, je suis avocat dans cette matière-là, je vais avoir des sanctions de mon employeur, je ne peux pas. Et tout ça, c'est théorique, on en parle tranquillement maintenant, mais quand vous êtes face à ces situations, vous avez peur.
Ouais, et puis la goutte de sueur qui tombe le long de la tempe, quand même.
C'est un peu ça, parce qu'en fait, la personne de données en question n'était pas dans un... il n'avait pas très envie de rigoler avec ça, donc il était assez sévère, et c'est presque menaçant. Et donc, il se trouve que quelqu'un, qui s'est trouvé être quelqu'un du client chez qui j'allais, que je ne connaissais pas, lui dit, il est avec nous. Et donc il m'a fait passer. Donc d'un côté j'étais très soulagé évidemment parce que j'étais passé, d'un autre côté je me disais
c'est providentiel cette histoire,
providentiel, mais que j'allais avoir du travail, parce qu'en fait si l'ingénieur en question pouvait se permettre de dire au douanier laisse-le tranquille avec nous, c'est qu'il le douanier le connaissait. Donc je ne sais pas comment il le connaissait. Sur le moment j'étais très soulagé, je ne me suis pas posé la question, j'étais égoïstement content d'échapper à ça. Et voilà, donc je reviens sur le côté
la différence entre la pratique et la théorie. Exactement. Et donc ça, c'est, je suppose que tous ces voyages, ces situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvés, ça fait entièrement partie de votre métier finalement.
Oui, ça fait partie du métier, et c'est ça qui est aussi agréable dans cette matière-là, c'est qu'en fait on voit beaucoup de gens différents, on visite des pays. Alors on ne visite pas toujours pour le plaisir, hein. On reste parfois jour et nuit à travailler dans le pays. Parfois on travaille sur des dossiers sensibles, donc on n'est pas toujours les bienvenus, puisqu'en fait on est là un peu pour faire un travail de pour savoir ce qui s'est passé, quand il y a eu des violations, de la corruption, qu'on soupçonne quelqu'un de corruption et qu'on fait ce qu'on appelle des enquêtes internes, c'est-à-dire que l'entreprise nous demande d'aller voir ce qui s'est passé, pour le cas échéant prendre les mesures qui s'imposent, notamment parfois dans certains pays, l'entreprise va choisir d'aller elle-même spontanément signaler les faits aux autorités. Ça se passe souvent aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant ça, l'entreprise va bénéficier d'une relative clémence. Donc les sanctions seront beaucoup moins importantes que si les autorités découvraient elles-mêmes. Mmh. Et c'est vrai qu'à l'ère des lanceurs d'alerte et des whistleblowers, il y a quand même beaucoup de risques que les choses se sachent. Et donc il y a beaucoup d'entreprises qui, en fonction du pays, il ne faut pas toujours le faire bien entendu, mais dans certains pays, il y a un avantage à aller signaler ça aux autorités. Et parfois d'ailleurs, je voudrais signaler ça, c'est pas toujours la peur du gendarme qui fait avancer les choses. De plus en plus, je vois des clients vraiment éthiques, des chefs d'entreprise qui sont convaincus que ça, c'est bien. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui est à signaler en matière de compliance. Beaucoup de gens voient ça comme de la paperasse. Il faut remplir des papiers, ça embête tout le monde. C'est vrai que parfois, c'est de la paperasse. C'est vrai que ça rend les choses plus difficiles. Et on tombe parfois dans certains excès qui sont insupportables. Quand on fait ça, ça veut dire que on n'a pas bien compris la situation. En revanche, il y a des chefs d'entreprise qui pensent vraiment qu'ils veulent faire les choses de façon éthique, sans tomber
ouais,
dans le monde
on est dans une
des
logique de
bisounours.
RSE presque.
Alors, presque de RSE, ils veulent faire les choses éthiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette, on voit le changement, que ce soit au niveau des opinions publiques. Si vous regardez ces 3-4 dernières années, le nombre de présidents, chefs de gouvernement qui ont dû partir pour corruption, au Brésil, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, etc. Si vous prenez les investisseurs qui regardent de plus en plus le côté éthique, si vous regardez les salariés des entreprises qui ne veulent plus travailler, surtout les jeunes ne veulent plus travailler, ils veulent travailler dans une entreprise clean, comme on dit, les clients, tout le monde veut. Les mœurs sont en train de changer. L'exemple que je donne toujours, c'est l'exemple de. C'était peut-être après l'entrée en vigueur de l'euro, puisque vous allez me reprendre avec cette remarque-là. Les gens fumaient jusqu'à une période pas très lointaine, fumaient dans les restaurants, par exemple. On savait que c'était mal, mais on fumait dans les restaurants. Et voilà. Et puis, maintenant, si quelqu'un fume dans un restaurant, ça choquerait tout le monde. Et je pense que la corruption, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, il y avait un environnement qui a complètement changé. Jusqu'à la fin des années 90, dans beaucoup de pays, dont la France, l'Allemagne, non seulement ce qu'on appelle les pots de vin aujourd'hui n'étaient pas pénalement répréhensibles, sanctionnables, mais même dans certains cas, on pouvait aller à Bercy avec les justificatifs et déduire ça des revenus de la société.
Comme
Donc
une
des gens,
charge, comme une
exactement.
autre.
Donc des gens qui ont vécu ça, quand vous leur dites aujourd'hui que le fait d'embaucher des stagiaires liés à des clients publics pour essayer d'augmenter le business avec ces clients-là a été sanctionné aux États-Unis, il y a des banques qui ont dû payer des sommes folles pour ça. Vous voyez la différence culturelle, et ça c'est quelque chose, c'est en train de changer. Et effectivement, on voit de plus en plus que les choses changent dans ce domaine.
Et ça vous. Vous avez l'impression d'avoir un impact là-dedans?
Moi personnellement, non, mais je pense que c'est un travail
C'est plus quelque chose de sociétal
exactement, sociétal, collectif, mais je reviens sur ce que je disais, je vois de plus en plus de personnes qui le font par conviction. Alors, ce n'est pas la majorité, évidemment, il y a la peur du gendarme, c'est toujours le risque qui passe en premier, mais il y a beaucoup de gens qui font par conviction. Moi, j'ai déjà vu des clients prendre des décisions extrêmement difficiles qui ont un impact sur les finances de la société, parce qu'ils ne voulaient pas avoir des voyous dans la société, alors même que. À l'époque, le risque que ça se sache était quand même assez faible. Donc, ils ont vraiment pris une décision guidée, alors certainement par le risque, mais aussi par une conviction personnelle qu'on ne pouvait pas laisser ce genre de personnage qui était très puissant, qui ramenait beaucoup d'argent, qui était rentable. Et finalement, c'était un exemple pour tous les autres, parce qu'on s'est dit, si cette tête-là, qui est quand même un des top performeurs de la société, est coupée parce que cette personne-là a mal agi, a fait des actes de corruption. Ça veut dire que voilà, on applique bien les règles. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que d'avoir des principes et de ne pas les appliquer. Autant ne rien avoir du tout, plutôt que de faire semblant, parce que sinon, je pense que
Une
c'est
rupture de
ridicule.
confiance
Exactement.
énorme. Et il y a quelque chose qui me. Alors, c'est quelque chose d'ailleurs dont j'ai parlé avec Loïc Padenot, que vous connaissez, et qui m'avait parlé de vous. Loïc, il a parlé dans son interview du fait qu'il a eu beaucoup de chance, les personnes avec qui il a travaillé, qu'il a vraiment l'impression d'avoir toujours travaillé avec des personnes avec qui c'était presque très agréable. Et je retrouve ça dans votre parcours aussi, où voilà, vous avez souligné dans toutes vos expériences vraiment que vos cabinets c'était comme des familles, où vous avez vraiment noué des liens très forts et pris beaucoup de plaisir. Est-ce que vous voyez ça comme une chance, ou à quel point est-ce que vous avez l'impression de créer ça vous-même?
Alors, une famille, je ne sais pas si c'est une famille, et ce n'est pas toujours le cas, parce qu'en fait, on ne va pas. Les personnes qui écoutent vont se plaindre en disant que ça ne peut pas être vrai. Et effectivement, ça ne peut pas être vrai avec tout le monde, parce qu'en fait, comme partout, il y a des abrutis, il y a des gens qui sont moins agréables, il y a des gens qui sont même trop durs parfois. Mais globalement, effectivement, le côté humain a été le côté, je dirais même que c'est le côté essentiel, parce qu'en fait, quand vous passez 10-15 heures par jour, parfois, quand vous êtes stressé, vous n'avez pas beaucoup dormi. Vous avez déjà la pression du client, la pression des délais, et que voilà, à tout moment vous pouvez vous énerver, parfois même exploser. Et c'est vrai que c'est une chance de travailler avec des gens agréables, des gens humains. Ça, c'est vraiment une grande chance, et c'est ce qui fait, moi je pense que c'est un élément essentiel, beaucoup plus que la rémunération, même si elle est très importante, qui fait que vous restez dans un environnement et que vous n'avez pas envie d'aller ailleurs parce que vous vous sentez bien avec les gens qui vous entoure. Et ça c'est un élément très important. Alors, est-ce que moi j'ai de l'influence? Je ne sais pas. Ce que j'essaie de faire dans mon équipe, en tout cas, c'est quand je recrute des gens qui, je sais qu'ils vont rentrer dans cette fameuse recette d'équilibre entre la compétence et le comportement, le côté humain dont je parlais. Et du coup, moi, je suis beaucoup plus épanoui à travailler avec des gens comme ça. Et je me rends compte d'ailleurs que beaucoup de nos clients sont aussi comme ça. Il y en a qui sont très durs, il y en a qui sont insupportables. Mais la majorité, et on se rend compte qu'en fait, quand on fait l'effort, les autres le font aussi. Et je pense que c'est beaucoup plus facile, sans que ce soit tous les jours rose non plus, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de travailler avec des gens agréables, finalement. Finalement, on travaille, c'est dur, mais on est avec... il arrive parfois, notamment dans les voyages dont on parlait, bah, qu'on soit avec des clients vraiment sympas, qu'on aille après le travail pour un coup aller dans un restaurant et on passe du bon moment. Et à ces moments-là précis, on a l'impression d'être presque en vacances parce que la relation est très bonne. Donc ça, c'est un côté essentiel. Et je pense qu'en tout cas pour ce qui me concerne, je pense que le jour, si un jour arrive où je perds ça, je m'en vais. Parce que ça c'est un élément essentiel qui fait partie du plaisir que j'ai à travailler. Et si je perds ce plaisir-là, je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à continuer dans un environnement qui ne serait pas agréable.
Et voilà, maintenant que vous êtes associé donc chez Norton Rose, vous vous épanouissez, mais comment est-ce que vous voyez votre avenir ?
Alors c'est difficile. Là encore, je vous parlais tout à l'heure du fait que finalement, on se laisse porter par le quotidien. Je ne suis pas en train de me faire un plan en disant voilà, dans 3 ans ce sera comme ça, dans 5 ans, parce que je vous disais, je pense que les circonstances de la vie font que, même si on peut les influencer bien sûr, aujourd'hui je suis content, donc j'ai envie de continuer dans cette voie là après je ne sais pas si dans 7, 8, 10 ans avec l'âge j'aurais envie de faire autre chose. En tout cas là je m'amuse et tant que je passe du bon moment, j'ai envie de continuer à passer du bon moment dans un environnement comme ça. Après les choses changent, après est-ce que cette matière là va continuer comme elle est aujourd'hui? Est-ce que ça permettra de... Parce qu'en fait, n'oublions pas qu'on est là aussi pour faire du chiffre. Donc, ça, c'est quand même la base. Donc, il faut quand même avoir des clients, avoir du business qui rentre. Donc, est-ce que cette matière-là continuera? Je pense que oui. Je n'ai même aucun doute. Mais si ça n'était plus le cas, il faut quand même se remettre en cause et faire autre chose. Et surtout, il faut toujours penser au coup d'après. C'est qu'en fait, l'anticorruption, je vous le disais, en 2007, quand j'ai commencé, jusqu'à 2012-2013, très, très peu de gens y croyaient en France. Là, l'anticorruption avec la loi Sapin 2, l'Agence française d'anticorruption, ben, c'est devenu un élément principal de la vie des sociétés. Qu'est-ce qui va se passer dans 2-3 ans? Parce que la corruption, très bien, tout le monde arrive sur le marché, donc au bout d'un moment, il y a des gens bien entendu. Même si on a beaucoup d'expérience, et je pense qu'on a un peu d'avance, mais au bout d'un moment, ben, je ne suis pas plus intelligent que les autres, donc ça va arriver. Donc toujours penser au coup d'après pour continuer à essayer d'être parmi les gens qui comptent dans cette matière-là. Donc voilà. Et le contentieux et l'arbitrage aussi, bien sûr, on va continuer à les développer. Donc je ne sais pas. Donc, d'un point de vue professionnel, j'ai envie de continuer comme ça. Après, d'un point de vue personnel, il y a peut-être d'autres projets dont...
Mais même par rapport à la profession d'avocat, il y a une profession qui change. Est-ce que c'est des choses qui vous donnent des envies, ou il y a des choses vers lesquelles vous voudriez aller ou développer par rapport à ça, ou non?
Non, je pense juste qu'il faut être conscient que les choses changent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non mais ça a marché comme ça, ça marchera comme ça et c'est pas autrement. Mais les gens changent, l'époque change, et vous ne pouvez pas ne pas changer avec l'époque. Je pense que c'est un pas rester sclérosé en disant je vous donne un exemple qu'on connaît tous avec les jeunes, et ça fait un moment, et pas que les jeunes d'ailleurs, ont envie d'avoir plus d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et c'est juste tellement évident que je suis encore choqué qu'il y ait des gens qui remettent ça en cause en disant « Oui, mais nous, on a beaucoup travaillé. » Bon, effectivement, il faut beaucoup travailler. Ça ne pouvait pas arriver sans beaucoup travailler. Et parfois, il faut beaucoup travailler. Mais juste, ça, on ne peut pas garder comme règle qu'il faut que systématiquement les week-ends des gens soient là. Il faut que systématiquement... Non, les gens sont... Alors, le problème, c'est que vous avez beaucoup qui veulent travailler moins en gagnant plus, ça c'est pas possible. En revanche, on peut trouver un bon équilibre entre les deux. On peut être bien payé et puis se dire très bien, moi je n'ai pas envie d'aller m'acheter une voiture de luxe tous les ans, et donc je gagne très bien ma vie, je continue à très bien gagner ma vie et j'arrive à trouver un équilibre entre les deux. Et je pense que si on veut garder les gens et si on veut être soi-même épanoui, je vous parle de mon propre exemple. Je pense qu'il faut prendre en considération ces changements, notamment les envies des uns et des autres. Aujourd'hui, il y a évidemment la rémunération qui est très importante, il y a l'ambiance et il y a l'équilibre. Et si vous ne prenez pas ça en compte, vous passez à côté de beaucoup de talents. Vous allez avoir des gens qui partent et vous-même, vous allez vous, je pense, vous, vous cacher une partie de votre vie. Donc le changement, il est là, il faut toujours l'accompagner, il faut toujours le sentir. Et pour ça, il faut rester en contact aussi parce avec les jeunes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on devient associé, c'est assez facile de se retrouver un peu entre associés dans sa tour d'ivoire, parce qu'on peut prendre des décisions, parce qu'on a une influence sur les choses, parce qu'on est, on est bien payé, on a du pouvoir. Donc on peut se retrouver juste dans sa petite coquille. Et en fait, il faut garder contact avec les jeunes. Un, parce que c'est de l'oxygène permanente. Voilà. Deuxièmement, parce que vous voyez ce qui se passe. Et vous essayez d'écouter. Ce sont des personnes qui vous disent, qui vous donnent des précisions sur comment la vie est en train d'évoluer, vu de leur côté. Et si vous ne voyez pas ça, vous perdez beaucoup de choses.
Vous allez anticiper ma prochaine question, mais vous... Parce que du coup, vous êtes devenu associé, vous avez une équipe, donc vous avez ce double regard-là, cette volonté de plus d'équilibre vie pro, vie perso de vos clairement. Jeunes. Vous l'avez clairement vu et oui. Ça n'a pas été difficile pour vous de vous faire... est-ce que ça a été difficile pour vous de vous faire un changement de culture ou...
Non, déjà, je n'ai pas eu à faire un gros changement de culture parce qu'en fait, la culture du cabinet ici n'est pas une culture, il faut venir... tout le temps. Alors, quand il y a beaucoup de travail, il faut être là. C'est clair, juste pour...
Oui, c'est pas les vacances chez Norton Rose.
Pour ne pas qu'il y ait d'incompréhension, il y a beaucoup de travail. On peut stresser, on peut travailler. Il y a des périodes où, l'année dernière, on finissait pratiquement tous les jours entre 9h et 10h du matin. Je peux vous dire que c'est des périodes extrêmement dures. Mais le point clé, c'est que ça ne soit pas la norme. Voilà. C'est quand c'est exceptionnel, et ça sera toujours exceptionnel. Il y aura toujours des urgences quand vous avez un référé d'horreur. Vous n'avez pas le choix. Quand vous avez... en ce moment, on part le week-end, il y a une partie de l'équipe qui part à l'étranger parce qu'en fait il y a des soupçons de corruption. Là, il faut tout laisser y aller tout de suite, faire l'enquête interne. Donc ça va être jour et nuit, tout le monde va travailler. Mais il ne faut pas que le système soit comme ça. Et donc, vous parlez du changement de culture, est-ce que j'ai eu beaucoup de mal à l'imposer ? Un, je ne l'ai pas imposé. Deuxièmement, c'est vrai que ça dépend beaucoup de l'associé. Parce que quand vous avez des associés qui donnent du travail le vendredi pour le lundi, enfin, c'est des exemples caricaturaux, mais ça existe. D'accord ? Donc, vous essayez de prendre en considération la vie de chacun. Et quand vous avez une équipe, quand vous avez des avocats qui, entre eux, quand il y a un gros coup de rush, arrivent à s'organiser pour dire « Moi, j'ai un mariage, notamment à la période des mariages, à la période des vacances, j'ai des vacances, etc. » Donc, ils vont se parler entre eux. Ils viennent me voir en me disant « On s'est mis d'accord. Voilà comment ça va se passer. » Donc, même moi, j'ai ce luxe de ne pas aller voir les gens en disant « Écoutez, je suis désolé, il va falloir... » Donc les gens, à partir du moment où vous avez une équipe de gens consciencieux, vous êtes tranquille. Je fais confiance, je regarde derrière évidemment, mais les gens eux-mêmes s'organisent de telle façon à ce que le travail fonctionne. Et après, vous avez des gens qui ont des enfants, vous avez des gens qui ont envie d'aller au théâtre de temps en temps, ils le font. Après, ils se reconnectent de chez eux. Alors ça, c'est pas très agréable évidemment, mais voilà, ça permet une certaine flexibilité. On n'est pas dans le ah non, tu peux pas partir. Si à partir du moment où les gens sont disponibles quand il faut être disponible, font leur travail sérieusement. Moi, on a même fait une expérience un peu pilote au cabinet, c'est d'avoir les gens qui peuvent travailler de chez eux de temps en temps, le télétravail. Et alors chez les avocats, c'est difficile parce que le télétravail dans certaines entreprises, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Ça fait plusieurs années que ça se passe.
Chez les avocats, et pourtant on est libéraux, donc on pourrait penser que
exactement. Et bon, bah non.
Et comment s'est passée cette expérience pilote?
Alors, plutôt bien, parce qu'en fait, certaines personnes qui l'essayent. Elles me disent juste la veille ou l'avant-veille, voilà, aujourd'hui, je travaille de chez moi, ou je travaille parce qu'en fait, il y a une personne qui a une partie de sa vie à Londres, qui de temps en temps va passer des week-ends à Londres. Et donc, elle travaille le jeudi et le vendredi de Londres. Et je sais que cette personne est totalement disponible, qu'elle fait son travail. Je le vois bien. Parce que moi, j'ai dit, évidemment, quand vous travaillez de chez vous, c'est pas pour aller bronzer aux Tuileries ou au parc Conso. C'est pour travailler, mais bon, ils gagnent le temps de trajet. Ils peuvent travailler d'un endroit où ils sont en dehors de Paris. Donc, eux sont contents parce que du coup, ils changent un peu d'atmosphère. Moi, je n'y vois aucun inconvénient à partir du moment où ils font bien le travail, ils sont disponibles quand il faut. Et franchement, ça marche. Après, je me suis rendu compte quand même que beaucoup de gens, alors, sauf ceux qui habitent... Parce que quand vous habitez très loin, vous économisez le temps de transport, mais quand vous habitez à Paris ou en région parisienne très proche, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Globalement, les gens ont quand même envie de venir travailler ici parce qu'il y a l'émulation collective, parce qu'en fait, parfois, c'est plus facile de se voir, mais le choix existe en tout cas, et ça marche. Après, moi-même, j'ai tenté l'expérience de temps en temps. Il y a des gens qui sont faits pour, et des gens non. Je ne pense pas être fait pour, même si, comme tous les associés, et comme beaucoup de seniors, quand on est en déplacement, on est même en vacances, on est quand même connecté pratiquement tout le temps, mais bon, on peut être connecté au bord de la plage. Ça m'ennuie, mais je préfère être au bord de la plage connecté plutôt qu'au bureau. Donc, voilà. Après, comme je vous disais, j'étais pas fait pour ça parce que de temps en temps, je me dis, allez, aujourd'hui, je travaille de chez moi. Au bout de 3 heures, j'ai déjà fait 2 siestes, j'ai vidé le frigo. Et donc, du coup, je m'embête. Donc, je préfère venir ici, même si c'est plus efficace, on est plus au calme chez soi. Mais c'est quand même.
Ça dépend des personnes, mais c'est bien d'avoir le choix. Et cette expérience pilote, c'est quelque chose, ça a été une demande des collaborateurs. Comment ça s'est organisé?
Alors, c'est quelque chose, c'est le cabinet qui tente des expériences pour voir comment ça se passe. Et il se trouve que dans mon équipe, c'est là où il y a le plus de volontaires pour faire le test. Voilà. Mais peut-être aussi le fait, en tout cas je parle de mon propre cas, le fait que j'aime venir ici, c'est que parce qu'en fait il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance avec mes autres collègues, mes associés, les équipes, etc. Donc du coup,
Oui, c'est un plaisir de venir.
là encore,
Mais ce qui est une bonne nouvelle que vous
non mais
aimiez votre
c'est
métier.
sans idéaliser parce que voilà c'est quand même du boulot et ça peut être stressant mais c'est vrai que je suis content de venir là par exemple hier on a fait rentrer deux beaux dossiers bah, c'était une excitation collective on était tous contents de le faire c'est vrai que si j'étais chez moi j'aurais pu moins frimer voilà et partager ça avec les autres et voilà c'est je pense ça tient aussi à l'ambiance qu'on peut avoir de venir partager ça avec ses collègues.
J'ai trois petites questions pour finir qui sont vraiment votre dernière joie. Quelle est votre dernière joie?
Alors, il y a évidemment des joies à titre personnel, parce qu'il y en a plein, il y a pas que le boulot. Mais ma dernière joie, c'était hier, justement, ces deux dossiers-là qui sont venus un peu par hasard. Alors, évidemment, c'est tout le travail de préparation qu'on a fait avant. Et voilà, donc j'étais content de partager ça avec l'équipe en disant, super, voilà ce qu'on a, on va faire une super année, il y a plein de projets. Et justement, la plus grande joie, je pense qu'elle est quotidienne. C'est de pouvoir toujours se dire que il y a encore plein de choses à faire. Et tant qu'il y a cette espèce d'espoir qui parfois est totalement, c'est du fantasme, parfois on se dit on va se faire ci, on va faire ça, il y a 90% des choses qui ne se passent pas, mais juste le fait de se dire tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, et super, on va essayer, rien que ça, je pense que c'est une belle émulation en fait.
Quelle est votre source d'inspiration actuelle?
Alors, tous les gens autour de moi. C'est aussi simple que ça, c'est pas des personnes qui m'inspirent, où je me réveille tous les matins, où je regarde je sais pas, des citations de Confucius ou de je ne sais qui. C'est vraiment le quotidien, enfin, les gens avec qui je travaille, les gens que je rencontre, évidemment ma famille, mes amis, voilà, qui traversent parfois des choses difficiles et qui arrivent, qui ont plein d'idées. Donc, je dirais les gens autour de moi au quotidien. Alors, pas tous, parce qu'il y a des gens qui sont des contre exemples, mais qui, je pense, inspirent parce qu'on se dit, tiens,
Je ne veux pas être comme ça.
exactement. Donc c'est dans les deux sens, en fait.
Qu'est-ce que vous portez sous votre robe?
Ah, d'avocat.
Bah, je ne
Oui,
sais pas
parce que là,
comment
pour.
se compose votre garde-robe, mais je pense plus à la robe d'avocat, effectivement.
Qu'est-ce que je porte sous ma robe? Ah, je veux pas faire une réponse qui peut paraître un peu niaise en disant de la conviction et l'envie. Mais clairement ça, c'est l'envie de faire des choses, c'est l'envie de gagner, c'est l'exaltation de ramener un client, c'est avoir un résultat qu'on peut partager avec les autres, parce que c'est voilà, c'est pouvoir de temps en temps, comme je vous disais, frimer. Après tout, je suis moyen-oriental, donc c'est un peu dans la peau. C'est juste essayer de passer du bon temps dans la mesure du possible. C'est pas toujours le cas, clairement, mais quand on peut, je pense que c'est ça qui fait que on a envie de la plupart du temps, de venir travailler, de continuer à faire des projets. Et
Donc sans regret sur la diplomatie.
sans regret sur la diplomatie, mais comme vous l'avez dit, vous m'avez ouvert les yeux, c'est qu'en fait, c'est au quotidien qu'on fait de la diplomatie. Et après, ça n'empêche pas de s'intéresser à toutes ces questions qui m'intéressaient déjà avant.
Bon, merci beaucoup, Christian,
Merci à
pour
vous.
cet entretien.